الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو الرابع من شهر ربيع الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس 43 في دراسة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 24 janvier 2014 et ceci est la 43e assise de l'étude de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم à partir du livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Nous avons parlé dans le dernier chapitre que nous traitons de ces choses miraculeuses et extraordinaires qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'est arrêté sur ce signe qui a eu lieu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons qui n'avaient pas assez d'eau pour accomplir leurs ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main dans un récipient, puis l'eau s'est mise à jaillir d'au milieu de ses doigts sallallahu alayhi wa sallam. Wa utiya bi ina'in fihima يتوضأ به فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها ثم دعا الله فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a mis sa main dans ce récipient et a invoqué Allah عز وجل. Puis quand il a sorti sa main, l'eau jaillissait entre tous les doigts de sa main, sallallahu alayhi wa sallam, si bien que les compagnons sont venus les uns après les autres accomplir al-wudu, leurs ablutions, en prenant l'eau qui jaillissait des doigts du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, rahimahullah, continue et va achever le chapitre concernant les miracles en disant « وَكَذَلِكَ فَعَلَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَأَرْبَعَ قال جابر ولو كنا مئة ألف لكفانا وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة من ماء في سقاء قال الراوي لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه حتى توضأوا وشربوا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit de même, il fit porter sa flèche à la source d'Al-Hudaybiyya. Plus loin, il plaça alors sa main dans le récipient trop petit pour qu'il y puisse y plonger la main et invoqua Allah. L'eau se mit à jaillir entre ses doigts. Ça, c'est le passage sur lequel on s'est arrêté la semaine dernière. Le même miracle se produisit à Al-Hudaybiyya alors que l'armée musulmane était forte de 4100 hommes. Vous vous souvenez de Al-Hudaybiyya de 1400 hommes. Vous vous souvenez d'Al-Hudaybiyya en l'an 8 de Al-Hijra, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se rendre à Mecca pour accomplir la Umra avec ses compagnons, les sahaba radiyallahu anhum, il a été stoppé en route à Al-Hudaybiyya par les mécréants de Quraysh qui n'acceptaient pas sa venue. Puis, ils ont contracté un pacte et ils devaient respecter les clauses de ce pacte parmi lesquelles ils n'avaient pas le droit de faire cette Umra cette année. Ils devaient accepter de retourner d'où ils venaient à Médine et revenir l'année suivante pour accomplir cette Umra. Pendant cette histoire, celle de l'Hudaybiyya, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient assoiffés et ils n'avaient pas d'eau suffisante pour s'abreuvenir, pour accomplir leurs ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah Azza wa Jal afin qu'il mette une bénédiction dans le peu d'eau qu'un des compagnons avait en sa possession. Allah Azza wa Jal a exaucé sa demande. Si bien que Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nous dit, si nous avions été 100 000, l'eau nous aurait suffi. Ils étaient 1400. Et même s'ils étaient 100 000, l'eau serait pour eux suffisante. C'est-à-dire que la quantité aurait été suffisante pour l'accomplissement des ablutions de chacun, voire même pour abreuver chacun. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal a mis dans cette eau une bénédiction et il est capable de tout. Il dit aussi, il réalisa le même miracle lors d'un de ses voyages. Le voyage auquel on fait allusion ici, c'est celui de l'expédition militaire de Bouat. Vous vous souvenez, dans les débuts du livre, on a vu que parmi les expéditions, Razwatu Bouat, l'expédition militaire de Bouat. Dans celle-ci, et le récit nous est rapporté par l'imam Muslim, et celui d'avant par l'imam Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullahu jami'an. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, nous dit, à partir cette fois d'un fond d'eau dans une outre. C'est-à-dire qu'il restait un fond d'eau dans une outre. L'outre, c'est un récipient. C'est un récipient où on y met de l'eau et des boissons. Le compagnon qui rapporte ce miracle relate. Lorsqu'il m'a demandé de verser ce fond d'eau dans l'outre, j'ai eu peur que ce peu d'eau soit absorbé par le cuir de l'outre. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'il n'y avait presque pas d'eau du tout. Il restait un fond qui était dans une outre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cet homme de verser cette eau, cet homme qui avait le récipient l'outre dans sa main s'est dit, peut-être que le fond de l'outre a absorbé le peu d'eau qu'il restait. Puis, il y introduisit alors sa main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et implora Allah le Très-Haut, si bien que l'eau se mit à jaillir entre ses doigts pour ses compagnons qui purent accomplir leurs ablutions et boire. Sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت بالماء حتى كفتهم. Il continue toujours dans les mêmes catégories de miracles. De la même manière, un jour, à partir de deux grandes outres appartenant à une femme, plutôt un peu avant, lorsque les compagnons l'introduisirent dans la source, l'eau jaillit en quantité suffisante pour leurs besoins. De même, il fit porter sa flèche à la source d'Al-Hudaybiyya. Lorsque les compagnons l'introduisirent dans la source, la flèche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait dans son carquois, l'étui dans lequel on place les flèches, il a sorti une de ses flèches et a demandé à ses compagnons d'introduire cette flèche dans la source au point d'eau d'Al-Hudaybiyya. Chose que les compagnons ont faite, radiyallahu ta'ala anhum. Lorsque les compagnons l'introduisirent dans la source, l'eau jaillit en quantité suffisante pour leurs besoins. وَكَذَلِكَ فَعَلَى يَوْمَ ذَاتِ السَّطِيحَتَيْنَ سَقَى أَصْحَابَهُ وَتَوَضَّأُوا وَأَمَرَ بَعْضَهُمْ فَاغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ تِلْكَ الْمَزَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٍ فَذَهَبَتْ إِلَى قَوْمِهَا فَقَالَتْ إِنِّي رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَسْحَرَ أَهْلِ الْأَرْضِ أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ قَوْمُهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذَا النَّمَطِ يَطُولُ بَسْطُهَا وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. De la même manière, un jour, à partir de deux grandes outres appartenant à une femme, il abreuva ses compagnons qui purent également effectuer leurs ablutions. Il ordonna même à certains d'entre eux, en état d'impureté majeure, d'accomplir le ghusl sans que tout cela ne diminue en rien le contenu des outres. La femme repartit alors chez les siens, auxquels elle dit, J'ai vu aujourd'hui le plus grand sorcier de la terre. Ou Allah, ou alors c'est un prophète. Puis elle embrassa l'islam, suivi par les siens. Cette histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Au cours d'un voyage, les compagnons étaient assoiffés. Ils sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, ils sont partis à la recherche d'une personne qui avait ne serait-ce qu'une petite quantité d'eau en sa possession. Quand ils ont trouvé cette femme, qui n'était pas croyante, ils ont donc dit à cette femme, « Viens avec nous voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il invoque la bénédiction d'Allah dans cette eau. » Cette dame a dit, « Qui est le prophète ? Quel prophète ?» Elle n'était pas croyante. Puis ils ont emmené cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce récipient, a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, et l'eau s'est mise à jaillir, si bien que tout le monde a bu et accompli ses ablutions. Puis quand cette femme est repartie, elle a dit, une fois arrivée chez elle, « Je viens de voir celui qui est le plus grand sorcier de la terre. » Pourquoi ? Parce que le sorcier, il fait de l'illusion. Et elle a dit, « Je viens de voir le plus grand sorcier de la terre. » Ou bien c'est un prophète. Puis elle s'est mise à croire en lui, et son peuple l'a suivi dans la croyance. Ibn Kathir dit, « Bien d'autres miracles de ce genre, qu'il serait trop long de tous évoquer ici, se sont produits. D'ailleurs, ce qui a été mentionné ici suffit amplement. » Effectivement, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, fait allusion au fait que la liste n'est pas exhaustive. Il n'a pas ici voulu citer tous les signes qu'on a pu voir ou entendre du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Car beaucoup de choses se sont déroulées à l'époque du prophète Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Mais c'était simplement montrer quelques signes qui ont été connus du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir quelque chose. Lorsque nous parlons des mu'jizat, des miracles, des choses qui sortent de l'ordinaire, les choses extraordinaires qui se déroulent du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même celles qui vont se dérouler après, comme des informations relatives à des choses futures qui arriveront et qui se sont avérées, ces miracles ne sortent pas de trois choses, comme le cite le Cheikh Abdel Razak ibn Abdel Muhsin al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala, et autres parmi les savants de la Sunna. Premièrement, al-Qudra, la puissance ou bien la capacité. Deuxièmement, al-Ilm, la science. Et je vais expliquer, inshallah. Troisièmement, al-Ghina, la richesse. On entend par là qu'à chaque fois qu'il y a un miracle qui se produit, une chose qui sort de l'ordinaire, cette chose a un lien avec la science, la capacité ou la richesse. Quand on dit la capacité, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un signe de sa main et la lune va se fendre en deux. C'est une capacité à faire quelque chose. Nous savons que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. Et nous savons que c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quelque chose qui est en rapport avec la capacité. La capacité de faire quelque chose. Deuxièmement, la science. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe d'une chose qui se déroule pendant même le moment où il parle, alors qu'il n'est pas présent. À l'exemple de la razwa de Mu'ta, le prophète est à Médine et il enseigne à ses compagnons qui sont avec lui à Médine ce qui se passe à des centaines de kilomètres. Et c'est exactement ce qui se passe. Ou bien une information relative à un fait qui va se dérouler à l'avenir. Ça, c'est en relation avec la connaissance. Troisièmement, al-ghina, ce qui est en relation avec la richesse, ce que l'individu possède ou possédera. À chaque fois qu'on regarde les signes des prophètes et les miracles, ils tournent autour de ces trois choses. C'est-à-dire que ces choses sortent de l'ordinaire dans ces trois points. Dans la connaissance, dans la richesse, dans la capacité. Il faut savoir quelque chose. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a donné cette puissance, du moins cette faculté de faire ces choses extraordinaires à ses messagers. Subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque ces choses arrivent, elles n'arrivent que par la permission d'Allah. En réalité, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la richesse d'Allah azza wa jal et la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi les savants insistent sur ce point? Car beaucoup de gens se sont égarés justement dans ce domaine, si bien qu'ils ont donné des propriétés aux prophètes qui ont eu des véritables miracles, qui sont des propriétés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils ont commis de l'excès dans leur religion, puis se sont éloignés de la croyance correcte. Et ils ont suivi des croyances erronées et égarées, tout comme elles sont égarantes. Donc lorsque l'on voit un miracle d'un prophète, il faut savoir que c'est une permission d'Allah Azza wa Jal, qu'en réalité c'est ce qu'Allah a décrété avec l'intermédiaire de ce prophète. Et Allah Azza wa Jal a donné un ordre au prophète Nuh alayhi salam. Et on le retrouve dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit à Nuh alayhi salam: قُلْ إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. Dis, c'est-à-dire ô Nuh, dis à ce peuple: je ne détiens pas les trésors d'Allah Azza wa Jal. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Et je ne connais pas l'invisible. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Cheikh Abd al-Razzaq a dit, on y retrouve ces trois choses. Premièrement, je ne détiens pas les trésors d'Allah. Ça, c'est un lien avec la puissance. Deuxièmement, je ne connais pas l'invisible. Ça, c'est un lien avec la science. Troisièmement, je ne vous dis pas que je suis un ange, et ceci est un lien avec la richesse. Ceci est ce qu'a dit le Cheikh Abd al-Razzaq. Les anges n'ont pas besoin de boire, de manger, alors que l'homme a besoin de boire, a besoin de manger. Donc, Nuh alayhi salam a un miracle, n'est-ce pas? Le déluge, c'est un miracle d'Allah azza wa jal qui a eu lieu avec le prophète Nuh. Et Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à Nuh et l'ensemble de ses prophètes d'éduquer la communauté sur la bonne croyance, que ces choses-là, si elles sont avérées, si elles sont dans le Coran, si elles sont dans le hadith qui est authentique, ça c'est la première étape, est-ce qu'elles sont avérées? Si oui, elles sont avérées, alors il faut croire qu'elles viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'elles ne viennent pas de ce prophète indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal. قُلْ إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَى إِلَيَّ. À la fin, Nuh dit à son peuple: je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Donc c'est très important, car beaucoup de gens se sont égarés dans ce domaine et certains ont même mécru à cause des croyances qu'ils ont eues, wal'iyadhu billah. Les signes sont donc nombreux. Ibn Kathir rahimahullah passe à un autre chapitre. Faslun, waqad akhbara bil ghuyub al mustaqbalati al mutabiqati li khabarihi, kama akhbara Allah 'azza wa jall fi kitabihi min idhari dinihi wa i'la'i kalimatihi wa istikhlaf alladhina amanu wa 'amilu as-salihati min ummatihi fil ard. وكان كذلك وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين فكان كذلك. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annonça des événements futurs qui se sont réalisés exactement selon ses prédictions. Ici, nous sommes dans un chapitre où nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de nombreuses voix tout au long de sa vie donné des informations sur des choses qui arriveront dans le futur, sallallahu alayhi wa sallam, et ces choses sont arrivées comme il les a décrites, sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc Allah Azza wa Jal qui lui a révélé ces informations concernant ces choses qui auront lieu à l'avenir. Sinon, le prophète ne connaît pas l'avenir. Et Allah Azza wa Jal a dit: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit: dans les cieux et sur la terre, personne ne connaît l'invisible, seul Allah le connaît. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et le mal ne m'aurait pas touché. La plus grande preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. Souvenez-vous dans des batailles, notamment celle de Uhud, où il a été touché à la joue, ses dents se sont cassées et le sang a coulé. S'il connaissait l'invisible et s'il savait ce qui allait lui arriver le lendemain, est-ce possible qu'il ne se protège pas? Alors que dans la bataille de Uhud, il a porté deux boucliers, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne connaît pas l'invisible. C'est Allah même qui lui a dit de le transmettre aux gens. Je ne connais pas l'invisible. Alayhi salatu wa salam. Si ce n'est qu'Allah lui a révélé des choses, lui a donné des informations sur des faits qui se dérouleront après son vivant, alayhi salatu wa salam, ou de son vivant, mais qui ne se sont pas encore déroulés pendant qu'il donne l'information, sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous en a informé Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, au nombre desquels le triomphe de sa religion et la domination sur terre de ceux parmi les musulmans qui croient en Allah et font le bien. Ibn Kathir nous dit que, tout comme le prophète nous a donné des informations sur des faits qui se dérouleront, Allah Azza wa Jal aussi nous a donné des informations. Puis il donne comme exemple, en faisant allusion au verset: وعد الله الذين آمنوا منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah a promis à ceux parmi vous qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions qu'il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux. Il changera leur ancienne peur en sécurité. Qu'il m'adore seul et ne m'associe rien. Et quand on regarde dans l'histoire des compagnons, radiyallahu anhum, souvenez-vous, n'est-ce pas qu'ils ont débuté faibles? N'est-ce pas qu'ils ont débuté, qu'ils étaient une minorité? Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de grands moyens pour se défendre. Et pourtant, ils ont concrétisé l'unicité d'Allah sur terre. Ils ont appelé à Allah Azza wa Jal. Allah leur a promis cette chose et leur a donné. Et les compagnons ont eu ce que vous voyez dans l'histoire de l'islam. Walhamdulillah. Puis, quand les gens ont délaissé la sunna des sahaba radiyallahu anhum, qui n'est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont redevenus comme les musulmans étaient au début de l'islam, alors qu'il n'était pas en position de force. Et il en fut ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça également la victoire des Byzantins sur les Perses quelques années après la défaite des Byzantins devant ces mêmes Perses. Or, les choses se déroulèrent conformément à sa prédiction. Il fait référence au premier verset de sourate Ar-Rum. Les Byzantins, Allah Azza wa Jal a dit: Ghulibat ar-Rum. Les Byzantins ont été vaincus. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Puis dans la fin du verset: mais après quelques années, ils seront les vainqueurs. Ils seront les vainqueurs. Et le prophète alayhi salatu wa salam a donné cette nouvelle à ses compagnons: les Byzantins ont été vaincus, mais ils vont vaincre. Car il y a eu à l'époque une guerre entre les Byzantins et les Perses, qui sont tous deux des ennemis d'Allah, des mécréants. Si ce n'est que les Byzantins n'était pas un danger pour l'islam. Donc les compagnons souhaitaient que les Byzantins puissent vaincre les Perses, car les Perses, eux, voulaient défier les musulmans. C'est pour cela que quand les Byzantins ont gagné, ils ont éprouvé de la joie. Ils n'ont éprouvé de la joie que parce que l'islam va être plus en sécurité que si les Perses étaient les vainqueurs. Et donc, il a donné cette information et les faits se sont déroulés.
وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعب أن الله قد سلط على الصحيفة الأرض فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله فكان كذلك.
De même, aux siens qui avaient trouvé refuge avec lui sur les terres d'Abu Talib, il fait référence à un des chapitres qu'on a étudié lorsqu'ils ont été assiégés pendant plusieurs années avec Abu Talib. Il annonça qu'Allah avait envoyé des vers ronger le parchemin où avait été rédigé le pacte de rupture avec ceux de sa tribu qui soutenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'exception du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète a donné cette information et les faits se sont déroulés.
Wa akhbara yawma badrin قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحدا واحدا فكان كما أخبر سواء سواء.
En outre, la veille de la bataille de Badr, il indiqua à ses compagnons les différents emplacements où les chefs de Quraysh tomberaient le lendemain. Et les choses se réalisèrent exactement comme annoncé. Vous vous souvenez, lorsqu'ils vont aller à Badr pour la grande bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la veille de la bataille, dit à ses compagnons, à tel endroit, un tel va tomber. À tel endroit, un tel va tomber. À tel endroit, un tel va tomber. Il montre des endroits de sa main et il cite les noms des ennemis d'Allah qui vont être tués le lendemain par les compagnons. Le lendemain, les compagnons disent, on a regardé tous ces endroits et il y avait exactement à chaque endroit désigné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui avait été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui allait mourir dans cet endroit. Donc le prophète donne une information et l'information se réalise.
Wa akhbara anna kunuz Kisra wa Qaisar satunfaq fi sabilillah. Fa kana kadhalik.
Il annonça aussi à ses compagnons que les trésors des Abdel Ghani Khosros, que les trésors de Khosros et de César seraient dépensés pour la cause d'Allah, après avoir été saisis par les musulmans, et que l'empire musulman s'étendrait d'est en ouest, et il en fut ainsi.
وَبَشَرَ أُمَّتَهُ بِأَنَّ مُلْكَهُمْ سَيَمْتَدُّ فِي طُولِ الْأَرْضِ فَكَانَ كَذَلِكَ.
Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé sa communauté en leur disant:
إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا.
Ce qui veut dire, Allah a plié pour moi la terre, et j'ai pu en voir l'Orient et l'Occident, et le royaume de ma communauté atteindra tout ce qui a été plié pour moi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'il arrivera un moment où les musulmans auront le royaume et domineront. Et c'est ce qui fut le cas à une époque. Puis ce royaume a été perdu à cause de l'innovation, à cause de la mauvaise croyance, à cause du mal, du péché et des désobéissances. Mais quand les musulmans reviendront, et seulement quand les musulmans reviendront à la bonne aqida, au tawhid, au monothéisme, à la bonne croyance, à la sunna, et ils se débarrasseront de l'impureté, du shirk, du kufr, des grands péchés, de l'innovation, alors ils reprendront ce qu'Allah Azza wa Jal leur a promis. Et ceci a eu lieu.
وَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلَ أُمَّتُهُ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَهَذِهِ حِلْيَةُ التَّتَارِ فَكَانَ كَذَلِكَ. Il annonça également à ses compagnons que l'heure ne sonnerait pas avant que sa nation ne combatte des hommes aux petits yeux et aux petits nez, dont les visages ressembleront à des boucliers recouverts de cuir. Or, cette description correspond aux Tatars que combattront effectivement les musulmans. Donc ça, les Tatars, c'est connu, c'est dans l'histoire. Il y a eu une très grande guerre entre eux et les musulmans. Et leur mal était très grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que l'heure n'arrivera que après que des gens apparaissent. Ces gens seront décrits comme ayant des petits nez et petits yeux, des visages qui ressembleront à des boucliers recouverts de cuir. Et quand les Tatars sont arrivés et les musulmans se sont opposés à eux, ceci a eu lieu à peu près en l'an 600 de la Hijra. Ceci a eu lieu. Donc ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une information réelle. وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان كذلك. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça qu'Allah, par l'intermédiaire d'Al-Hassan, le fils de Ali, réconciliera deux immenses armées de musulmans. Et il en fut ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à ses compagnons, en parlant justement de l'Hassan, « Inna bni hadha la sayyid »« Mon fils que voici est un maître » وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et avec lui, Allah va réconcilier deux tribus parmi les musulmans. Car il y a eu une époque où il y a eu une mésentente entre deux groupes de musulmans, si bien qu'il y a failli avoir un grand mal, mais Allah Azza wa Jal a préservé ce mal par l'intermédiaire de Al-Hassan radiyallahu ta'ala anhu. وأخبر بقتال الخوارج ووصف لهم ذات ذا الثديا فوجد كما وصف سواء سواء. Il continue. Donc ici il nous parle des faits qui se sont déroulés dans l'histoire. Et il en fut ainsi. Il informa également les musulmans qu'ils seraient amenés à combattre les khawarij et leur décrivit leur chef, Dhu al-Thudayya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une information un jour à ses compagnons. Et cette information, il leur dit dans celle-ci qu'ils vont combattre les Khawarij. Les Khawarij, le nom Khawarij, c'est le nom d'un groupe égaré qui prétend à suivre la religion correcte et l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en réalité est loin dans l'égarement. Elle n'a rien à voir ni avec le Coran ni avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit à ses compagnons qu'ils allaient les combattre et que les musulmans combattront les khawarij. Et jusqu'à nos jours, les khawarij sont combattus. Wal'iyadu billah. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit: vous allez un jour combattre des Khawarij. Il s'y trouvera un homme qui est décrit comme ayant dans le bras une forme qui ressemble au sein de la femme. Et un jour, les compagnons ont combattu avec Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Puis ils les ont vaincus. Ali, radiyallahu anhu, a demandé à ses compagnons: cherchez cet homme-là dans les morts. Les compagnons ont cherché, ne l'ont pas trouvé. Ali leur a dit: cherchez encore. Ils ont cherché encore et ils ont trouvé un homme avec dans le bras une forme de ce que vous venez d'entendre. Ali radiallahu anhu est tombé prosterné pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara bi anna ammaran sataqtuluhu al-fi'atu al-baghiyah fa qutila yawma siffin ma'a aliyin radiallahu anhuma. le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annonça aussi que Ammar ibn Yasir serait tué par l'armée rebelle. Il fut effectivement tué le jour des événements de Siffin alors qu'il combattait aux côtés de Ali. Les événements de Siffin, c'est un endroit dans lequel deux groupes de musulmans se sont opposés. Et au cours justement de cette bataille, Ammar a été tué par l'armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé comme étant l'armée rebelle. Et c'est ce qui a eu lieu. وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى وكان ظهور هذه في سنة بضع وخمسين وستمائة وتواتر أمرها. Il annonça de même que se déclarera dans la région du Hijaz un gigantesque feu par lequel seront éclairés les coups des chameaux à Bousra. Bousra, c'est en Syrie. Et le Hijaz, c'est la région où on voit Mecca et le Médine, en Arabie. Donc ce sont des centaines et des centaines, des milliers de kilomètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, l'heure n'arrivera qu'après qu'un feu apparaîtra de la région du Hijaz. Ce feu sera tellement grand et immense que la lumière de ce feu va éclairer la terre de Bousra, de la région du Hijaz jusqu'à celle de la Syrie, si bien que les coups des chameaux seront éclairés par ce feu. Et il continue, rahimahullah, or, de multiples récits confirment l'existence de ce feu qui s'est déclaré au milieu du 7e siècle de l'Hégire. J'ai d'ailleurs été informé que des gens ont effectivement vu les coups des chameaux éclairés par ce feu à Bousra. Qu'Allah fasse donc l'éloge de son messager. وَأُخْبِرْتُ عَمَّنْ شَاهَدَ إِضَاءَةَ أَعْنَاقِ الْإِبِلِ بِبُسْرَى فَصَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son livre intitulé Al-Bidaya wa Al-Nihaya, le début et la fin, c'est un grand livre d'histoire en plusieurs volumes. Dans un de ces volumes, il va traiter des faits historiques qui se sont déroulés au cours du 7e siècle, entre l'an 600 et 700, vers l'an 654, il va justement nous décrire ce feu tellement qu'il a été vu par beaucoup de monde. Et Ibn Kathir rahimahullah a vécu dans une période qui était proche. Donc des gens sont venus et lui ont informé de ce feu. Et pour résumer, car il s'est étalé sur la description de ce feu, pour résumer, il a dit que il y avait à l'époque des gens qui écrivaient, Tullab al-ilm, ulama, ils écrivaient avant avec la plume leurs livres. Eh bien, ils étaient à Bousra, vers la Syrie, ils n'avaient pas de lumière. Eh bien, pendant des mois, ils écrivaient avec la lumière de ce feu qui flamboyait vers le Hijaz. Ensuite, ils ont même décrit ce feu comme des montagnes immenses. Et il remplissait des vallées, il coulait comme des rivières. Il y avait une grande flamme de base, et de cette flamme, il y avait d'autres flammes qui coulaient comme des rivières. Et pourtant, ils ont dit ce feu n'a brûlé personne et on ne voyait pas de chaleur ni d'odeur. C'était simplement un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète l'avait informé sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les hadiths des signes de la fin des temps, on nous parle de deux feux. Le premier, c'est celui que vous venez d'entendre. Le deuxième, c'est celui qui fait partie des signes majeurs de la fin des temps, là où la fin sera vraiment très proche. Il y aura un feu qui sortira du Yémen et qui repoussera tous les gens vers la région du Chem, car c'est là-bas qu'il y aura le jugement, le jour dernier. Si bien que les gens devront se dépêcher pour arriver avant d'être brûlés par le feu. Et alors il y aura des gens qui feront le tout à tour de rôle qui se prêteront un chameau à 10 personnes, à 7 personnes, à 8 personnes, à 2 personnes, et certains qui marcheront à pied. Certains vont être brûlés, d'autres vont arriver avant que le feu ne les touche. Mais lorsque vous allez lire les hadiths sur les feux, sachez qu'il y a deux feux. Il y a deux feux. Il y a celui qui a eu lieu, à peu près en l'an 700, et celui qui va avoir lieu, qui fait partie des signes majeurs de la fin des temps. Al-Hafidh al-Hakami rahimahullah en parle dans son livre « Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqidah » 200 questions et réponses dans la croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité d'enseigner, walhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé d'autres événements qui soit ont déjà eu lieu, soit se produiront avant l'avènement de l'heure. Événements qu'il serait trop long d'évoquer ici. D'ailleurs, ce qui a été présenté ici suffit amplement. وَأَخْبَرَ بِجُزْئِيَّاتٍ كَانَتْ وَتَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَطُولُ بَسْتُهَا وَفِيهَا فِيمَا ذُكِرَ كِفَايَةٌ وَفِيمَا ذُكِرَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبِهِ الثِّقَةُ. Puis Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va passer à un autre chapitre de son livre. Ce chapitre va concerner le fait que même les livres, les anciennes écritures divines, les livres d'Allah Azza wa Jal, la Torah, l'Injil, la Torah, l'Évangile, ces livres ont parlé de la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Faslun wa fil kutub al mutaqaddima al bisharatu bihi » كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكرها. L'annonce de son avènement dans les écritures révélées. Les écritures révélées avant le Coran ont annoncé son avènement. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala indique dans le Coran que sa venue est annoncée dans la Torah comme dans l'Évangile, et que son prophète Isa alayhi salam a dit, annonçant l'arrivée après moi d'un prophète du nom de Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi salam a plusieurs noms, Muhammad et Ahmed, et d'autres. Donc dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous informe que Isa alayhi salam a donné cette information à ceux qui étaient avec lui. Par ailleurs, dans un récit que rapporte l'imam al-Bukhari, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma affirme avoir trouvé la description de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah, description qu'il mentionna.